Salutations à vous, chers enfants de la Terre. Il nous fait plaisir de nous présenter ici maintenant, de venir vous rencontrer, chers amis, de venir saluer cette famille d'âmes très spécifique qui se réunit en ce lieu. Vous ressentirez un thème de fraternité, chers amis, de fraternité et de retrouvailles. Pourquoi des retrouvailles? Parce que la fibre qui réunit, qui rassemble l'égrégore ici présent a un thème qui a magnétisé les êtres ici présents. D'abord, le thème d'une fraternité réunie qui rappelle aux êtres ici présents qu'ils sont en ce monde pour participer à une transition qui dépasse largement l'entendement humain. Beaucoup d'êtres cherchent à partir du mental à comprendre des enjeux qui appartiennent à la réalité de l'âme. Et cela crée beaucoup de perturbations entre l'être humain qui tente de comprendre l'âme et l'âme qui utilise un canal de communication pour transmettre à l'être humain ce que vous nommez la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est un concept qui est souvent interprété sur Terre comme étant un être qui est soumis, et vous dites bien cela, soumis à la volonté de Dieu, qui est soumis à une conscience pour laquelle l'être n'a aucune connexion, et il attend des directives de cette conscience qui lui dira, voilà, cher être humain, tourne à droite, tourne à gauche, et emprunte cette voie et je te commande d'aller dans cette direction. Et cela a amené des êtres à accepter un état de soumission à la divinité qui a autorisé au niveau énergétique un état de soumission à une énergie que vous nommez les êtres de pouvoir. La conscience de pouvoir, l'interprétation que l'être humain est soumis à une volonté divine, nous pourrions les apparenter. Un mouvement qui est très similaire, vous le noterez. Les êtres qui sont soumis à une volonté divine, les êtres qui sont soumis à une autorité extérieure, tout cela a pour point de convergence la notion d'un être qui n'a pas su proclamer sa souveraineté, et qui envisage le chemin spirituel à partir d'une conception qu'il attend des directives d'une conscience supérieure qui certes existe, mais il faudra changer la perspective pour véritablement comprendre son ampleur. Car la conscience supérieure n'est pas un être assis sur son fauteuil qui regarde la création et qui, dans quelques moments de répit, envoie des directives et attend d'observer si les êtres humains accompliront les directives pour enfin les gracier d'un paradis éternel parce qu'ils auront écouté la voix de Dieu. Tout cela appartient au monde des humains qui, à partir d'une sensation d'infériorité, ont interprété que l'univers était donc nécessairement supérieur à eux. Parce que si un être se sent inférieur, il se sent inférieur à une autre énergie. Vous la nommez Dieu, les guides, peu importe. S'il y a cette sensation d'infériorité et d'attendre les directives, nécessairement, inconsciemment, l'être humain nourrit l'autorisation à une conscience plus grande de venir occuper un espace vacant. Et ainsi, les êtres ont accepté un pas à la fois d'abandonner leur souveraineté à des structures extérieures qui ont occupé ce que les êtres humains ne voulaient pas occuper, c'est-à-dire l'espace de leur présence je suis, de leur souveraineté. Et les êtres ont interprété que parce qu'ils n'avaient pas consciemment souvenir de ce qu'ils nomment la volonté de Dieu, ils ont donc interprété que cette volonté de Dieu provenait d'une source extérieure à eux, pour laquelle il fallait se plier aux volontés, plier les chines. Et vous aurez compris que tout cela a amené des êtres à s'éloigner d'un lien très simple avec Dieu, avec l'univers. un lien très simple, un lien de fraternité. Et si nous avons ouvert cet entretien en vous parlant de retrouvailles, vous aurez compris que les retrouvailles ne sont pas en lien avec les êtres assis à côté de vous. Des retrouvailles avec cette vérité qui vous habite, qui habite les êtres humains. C'est cette vérité que vous appelez à vous. Cette vérité qui demande à chaque être d'assumer sa souveraineté, de se souvenir qu'il est un être divin venu vivre une expérience dans ce monde. Certains diront ce monde oublié, mais en vérité c'est un monde d'oubli, où l'oubli est devenu le point carrefour. Les êtres ont voulu expérimenter l'oubli du souvenir de qui ils sont, afin de mieux comprendre qui ils sont. Vous nous direz, mais quel non-sens, mais en vérité, cela est reçu au niveau universel comme l'ultime accomplissement. L'être qui renonce pour un temps à sa conscience universelle pour mieux l'apprécier par la suite, pour mieux la bénir, pour mieux l'accueillir. Se souvenir que vous êtes unis à l'univers à partir de la sensation d'en avoir été séparé. Quel ultime aboutissement que celui-là. Il n'existe pas d'évolution plus poussée au niveau universel que l'apprentissage généré par l'expérience de la dualité, chers amis. Peu importe jusqu'où vous irez recueillir la vie dans les univers, qu'il soit dans la 7e, 9e, 12e, 40e dimension, l'ultime expérience d'évolution, c'est l'être qui accepte momentanément de renoncer à son souvenir universel pour participer à un mouvement d'évolution qui permet à tout cet univers de comprendre ce qu'il est à partir d'une sensation de ce qu'il n'est pas, à partir de l'illusion d'avoir vécu la séparation. Car vous aurez compris que c'est une illusion. Il est impossible de se séparer d'un univers qui donne la vie, qui anime la vie. La vie est mue par l'énergie que vous nommez amour, qui est une énergie inclusive, cette énergie qui anime chaque cellule du corps physique, il est impossible de continuer à vivre tout en se séparant de l'amour. L'amour animant la sève dans le corps physique, si l'être se sépare de l'amour, il se sépare de la sève. Il ne peut survivre. Donc il fallait que cette expérience soit au niveau de l'illusion. Et non au niveau de la réalité. En d'autres termes, c'est une illusion que d'être séparé et non une vérité. Seulement, cette illusion est tenace, vous l'aurez compris, et les êtres ont fini par imaginer que l'illusion était la réalité et que la réalité était l'illusion. Et il est intéressant d'observer que tant d'êtres résistent à la réalité alors qu'ils sont complètement baignés de l'illusion et que cette illusion est devenue si intense qu'ils ont fini par lui donner un pouvoir absolu, l'outiller pour qu'elle puisse être encore plus contrôlante, et voilà que cette illusion devenue autorité a pris le dessus sur la souveraineté. Et tout cela appuyé sur une sensation que les êtres ont imaginé que la volonté de Dieu était extérieure à eux. Et voilà que dans cette invitation, chers amis, et ce rendez-vous est très particulier, vous le sentirez parce que en vous, au même rythme que les mots sont prononcés, s'éveille une présence qui éveille, rappelle à l'intérieur un sentiment oublié Et si vous êtes attentifs, chers amis, au fur et à mesure que ce message se déploie devant vous, ressentez à partir du hara, cette énergie située sous le nombril, à la base du corps, ressentez comme un serpent qui s'élève au-dessus d'un panier. Vous savez cette image du flûtiste qui élève le serpent. Sentez ce serpentin qui s'élève en vous, qui vous suggère que quelque chose en vous s'anime et cherche à rejoindre la conscience. Et cette union du hara et du troisième œil, de l'âme et de l'esprit, se rencontre au niveau du cœur. Et vos mains, prolongement du cœur, vous permettent d'offrir à votre humanité ce qui émane de votre vibration. Et vous aurez compris que ce serpent ascendant est ce que vous nommez la volonté de Dieu. Et voilà que ce Dieu que les êtres cherchent à l'extérieur est caché au centre de leur être, enroulé autour d'un centre énergétique nommé le hara. Et cette conscience de Dieu cherche à s'élever vers la conscience d'être humain et que le cœur devient le moyen d'offrir cette découverte à l'humanité. Et entendez bien ce que nous avons dit. Ce Dieu qui cherche à s'unir avec la conscience d'être humain. Et les êtres nous disent, je cherche à m'unir à Dieu. Et nous sommes à vous dire, Dieu cherche à s'unir à vous. Il y a un problème ici dans l'équation. Qui cherche à s'unir avec qui? Et nous vous disons que tant et aussi longtemps que l'être humain renonce à assumer sa dimension divine, énergétiquement, ce qu'il dit, c'est qu'il se soumet à la vérité de son être, et tant et aussi longtemps qu'un être se soumet, ce qu'il fait en vérité, c'est qu'il reconnaît la différence et la séparation entre lui et l'objet de ce pouvoir. Et alors, l'être s'emprisonne dans une définition de son être qui ne le sert pas, et en même temps, il demande à l'univers quelle est la volonté de Dieu. Et voilà que ce Dieu n'a d'autre choix que de provoquer l'être dans son impuissance, parce que la mémoire d'impuissance et de soumission occupe tout l'espace. Et voilà que l'être, à partir de sa soumission, se dira, « Mais cher Dieu, pourquoi as-tu autorisé tant d'abus? Que faire ?» Et dans cette sensation, l'être continue d'imaginer que ce Dieu extérieur à lui a soif de domination ou est un Dieu complètement désabusé ou est un Dieu complètement insensible. Dans tous ces scénarios, nous dirions que la vérité est interprétée à partir d'une sensation que tant et aussi longtemps que l'être renonce à reconnaître sa divinité, il ne peut pas en parallèle appeler la volonté de Dieu, car cette volonté n'existe pas dans la forme que nous vous décrivons. Il n'existe aucune conscience extérieure à vous qui a le grand plan de votre vie, le grand livre, et qui attend les opportunités pour vous les délivrer et le bon moment pour que vous l'entendiez. Tout cela ne fait aucun sens, chers amis, car vous êtes l'être qui avez écrit ce livre. Comment pouvez-vous écrire un livre et ensuite attendre qu'une conscience extérieure à vous vous dicte ce que vous avez vous-même écrit? et alors souhaiter que cette information puisse être enfin mise à jour, tout en renonçant à proclamer sa souveraineté, ce qui revient au fait de demander à une conscience supérieure à vous de venir vous éduquer sur la voie à suivre. Et ce qu'il y a d'intéressant dans toute cette équation, chers amis, c'est que derrière nos mots pousse à l'intérieur de vous cette énergie qui demande qu'on lui ouvre la porte, qu'on ouvre son cœur et qu'on accepte vraiment de donner la main à ce Dieu que vous êtes et que l'on accepte véritablement de quitter les enjeux de supériorité et d'infériorité. Donner la main à Dieu sans aucun concept de soumission, d'abandon à une conscience supérieure. Tout ce concept, et nous le comprenons, nous allons ensemble définir ce qui est reçu derrière le thème de conscience supérieure. Nous ne voulons pas l'invalider, chers amis. Nous ne sommes pas partisans de proposer aux êtres d'abandonner toute notion d'une conscience supérieure, mais nous aimerions plutôt la nommer conscience élargie, qui n'a rien à voir avec une conscience supérieure. C'est très différent. La conscience élargie d'un être qui vole en montgolfière. L'être n'est pas supérieur aux êtres qui sont sur Terre. L'être a simplement une vue d'ensemble. Allez-vous vraiment vous soumettre à un être dans une montgolfière simplement parce qu'il est dans une montgolfière? Allez-vous lui dire, « Oh toi, cher Dieu du soleil, toi qui voles au-dessus de nos têtes, dis-nous le chemin à suivre. » Vous allez simplement reconnaître qu'il est privilégié de son point de vue, et que ce point de vue privilégié vous permet à vous de recevoir une guidance de ce point de vue, et vous aurez alors une balise beaucoup plus claire sur le chemin emprunté. Et au lieu d'emprunter quatre chemins pour vérifier lequel de ces quatre chemins est le plus stimulant pour vous, vous allez simplement reconnaître qu'une partie de vous vit dans cette montgolfière, a cette vue d'ensemble, et vous allez simplement collaborer avec cette portion de vous pour qu'elle vous indique lequel des quatre chemins est le plus vivant pour vous, celui qui correspond à ce que vous nommez la volonté de Dieu, qui, en d'autres termes, est associée à la joie. La joie de Dieu. Voilà comment nous pourrions la proposer. Se soumettre à la joie de Dieu, à la joie de sa divinité. Car là où il y a la joie, Dieu s'y trouve. Tant d'êtres ont imaginé que pour atteindre Dieu, ils devaient gravir le mont Everest, marcher à genoux les escaliers d'un oratoire, traverser un chemin de Compostelle. Tout cela est intéressant pour l'expérience, mais si l'être imagine que c'est sa soumission et son besoin d'offrande pour permettre à Dieu d'enfin accepter de le reconnaître comme un être qui a tant souffert qu'il peut maintenant être accueilli par Dieu. Tout cela, vous l'aurez compris, amène les êtres à corroborer cette sensation d'impuissance et de soumission. Et nous vous disons que cette vision d'un aspect de vous qui a la vue d'ensemble est beaucoup plus représentative de ce que vous nommez Dieu que d'un concept d'un être supérieur qui a son propre agenda et qui attend que vous vous y soumettiez pour vous le transmettre. Car alors, l'être humain accepte son état d'infériorité et dès qu'un être humain agit de la sorte, il autorise énergétiquement des êtres à occuper un pouvoir qu'il n'ose pas assumer, c'est-à-dire sa souveraineté. Et ainsi, les êtres sont coincés dans une dynamique où d'un côté, ils appellent un changement de régime, et en même temps, ils se soumettent à une conscience supérieure, et même si cette conscience continue de proposer un autre regard, tant d'êtres humains imaginent qu'il s'agit là d'une invitation à se soumettre davantage, car Dieu est en colère et il faille l'écouter. Et tout cela ne fait aucun sens lorsque l'évolution est perçue comme des êtres d'amour qui ont choisi de s'incarner par amour pour l'évolution, pour permettre à un univers d'amour de mieux se découvrir à partir d'une expérience de vivre ce qui est nommé la dualité, c'est-à-dire la sensation d'avoir oublié que vous êtes des êtres d'amour pour ensuite vivre l'expérience de vous en souvenir. C'est cela le but. Expérimenter l'ombre pour mieux choisir la lumière. Mais tant d'êtres ont imaginé que parce qu'ils avaient expérimenté l'ombre, c'est parce qu'ils le méritaient, ils étaient inférieurs à la lumière, ils devaient se soumettre à une conscience, cette lumière. Et voilà que tout ce concept a, nous pourrions dire, quelque peu, sinon beaucoup, dégénéré dans les derniers centenaires. Sans aucun jugement de notre part, nous disons dégénéré parce que les êtres ont beaucoup souffert de cela. Et en même temps, au niveau évolutif, les êtres ont compris que peu importe la quantité d'efforts qu'ils feront pour se soumettre encore plus à une conscience supérieure, cette conscience, par définition, est insatiable parce qu'elle est nourrie par une énergie inconsciente qui autorise un pouvoir extérieur à abuser. Et nécessairement, le Dieu des univers, c'est-à-dire la somme de tout ce qui est, par amour pour l'évolution, acceptera d'emprunter le visage d'un justicier le temps que les êtres humains vivent leur expérience jusqu'au moment où ils accepteront d'y renoncer et alors ils verront un éclatement de cette forme et ouvrez bien les yeux. Vous la voyez autour de vous. Vous le voyez autour de vous. Cet éclatement est omniprésent maintenant parce qu'une majorité d'êtres conscients maintenant reconnaît la futilité de ces dynamiques de déni de soi et de maintien de ce déni dans une forme très concrète, institutionnalisée. Et voilà que ces institutions ne sont plus soutenues par les lois universelles parce que justement les êtres humains ont accepté au niveau de l'âme de retrouver le chemin de leur souveraineté. Et voilà que la volonté de Dieu peut alors émerger de leurs entrailles, parce que les êtres conçoivent que ce qu'ils nomment Dieu est la partie d'eux qui a la vue d'ensemble. Vous nommez cela la sagesse, certes. L'être qui a la vue d'ensemble peut être reconnu comme le sage parce qu'il connaît les différentes alternatives et il sait aussi vous proposer celle qui est le plus alignée avec vos choix du cœur. Mais il n'est pas supérieur. Il a la vue d'ensemble. C'est très différent, chers amis. Parce que dès qu'un être sent que cette énergie est supérieure à lui, automatiquement, il accepte son infériorité. Et alors, l'infériorité est associée à l'état d'être humain Et là, alors, l'être qui vit des tensions, des impatiences, des thèmes avec son entourage, des colères, des jugements, il se dit, voilà, tout cela, c'est mon infériorité. Donc, il imagine que les éléments qui le distinguent en tant qu'être humain sont associés à son infériorité et viennent corroborer qu'il est soumis à une conscience plus large. Et vous avez beaucoup d'êtres qui sont dans une forme de rébellion actuellement sur Terre, qui vont, en d'autres termes, s'imbiber totalement des éléments que nous venons de décrire, la colère, la haine, les jugements. Ils vont laisser, sans aucun discernement, ces énergies prendre le contrôle d'eux-mêmes parce qu'ils sont dans une forme de réaction par rapport à une forme de soumission avec une conscience supérieure. Ils ont raison d'être en réaction. Seulement, ils sont en réaction avec eux-mêmes. Ils sont en réaction avec la partie d'eux qui continue inconsciemment de reconnaître à l'extérieur d'eux une énergie plus grande. Et alors, l'être, soit il est en soumission, soit il est en rébellion, mais le même mouvement est mu par ce constat que l'être n'ose pas remettre en question simplement parce qu'il n'ose pas reconnaître l'illusion dans laquelle il s'est plongé. Et nous vous disons, chers amis, qu'en ce moment, une énergie très puissante qui aura son paroxysme à l'été de cette année pousse vraiment les êtres à une réaction amplifiée face à toute forme d'autorité, parce qu'en eux, l'équation humain et soumission a éclaté, parce qu'en eux, la conscience divine, même si cela est fait à un niveau inconscient, leur a dicté l'incohérence de ce mouvement et la vérité de leur essence. Et vous verrez, pendant environ 2 années, l'éclatement évident de toute forme d'autorité planétaire, une autorité qui ne sera pas appuyée sur une énergie de cœur, une autorité de contrôle, des êtres qui, par peur d'une hémorragie, vont vouloir envelopper le corps entier d'une membrane plastifiée et s'imaginant ainsi qu'ils contiendront toute forme d'hémorragie, alors que le corps planétaire, dans sa puissance et sa détermination, fera éclater toutes ces formes de restrictions. Et vous aurez compris que c'est un éclatement amoureux. Notre propos n'a aucunement comme but d'éveiller des peurs. Ne craignez pas, chers amis, toute forme de transformation sociale. Au-delà de ce que vos médias vous transmettent, si vous allez au cœur de ce qui est vécu, vous constaterez que des êtres de conscience habitent les mouvements sociaux et qu'ils émanent de leur cœur sacré une quiétude et une paix qui amène les êtres dans une colère à se souvenir, d'abord inconsciemment, éventuellement consciemment, qu'ils sont créateurs et que ce qu'ils refusent de nourrir est un autre terme pour reconnaître leur souveraineté. Et lorsqu'un être reconnaît sa souveraineté, il n'a plus à chasser les autres, il n'a qu'à assumer sa lumière. Et automatiquement, les êtres qui chercheraient, par exemple, à avilir l'être, sont désarçonnés. L'énergie qui les soutenait est invalidée. Et voilà que les êtres reconnaissent alors qui ils sont et savent en même temps qu'ils n'ont plus à rejeter. Ils n'ont qu'à briller et à proposer des alternatives qui seront nourries par l'être élargi qui a la vue d'ensemble et dont sa perspective est en dehors du temps. C'est cela qui permet à un être de reconnaître sa divinité, de s'y abandonner au niveau de la confiance, mais non pas au niveau de l'infériorité. C'est très différent, chers amis. Entendez la subtilité dans nos mots qui a beaucoup de nuances dans le fondement. L'abandon à une conscience supérieure et l'abandon à une conscience élargie qui a le plan d'ensemble est très différent. Sentez les deux énergies, chers amis. Placez dans la main gauche l'être qui s'abandonne à une conscience supérieure. Placez dans la main droite l'être qui s'abandonne à une conscience élargie de lui-même. Prenez quelques instants pour ressentir la différence énergétique entre vos deux mains. Sentez-le, chers amis. Sentez-le. Sentez-le. Photographiez cela. Comprenez-le dans vos cellules. Faites-en un vécu personnel. Proclamez-le. Et maintenant, choisissez laquelle de ces énergies vous voulez ancrer en vous et amenez la main qui correspond à ce que vous voulez ancrer au niveau de votre hara, cette énergie située sous le nombril. Ancrez ce soleil en vous et poussez-le jusqu'à votre hara. Sentez que vous naissez, renaissez, reconnaissez l'alliance avec l'être universel en vous qui a la vue d'ensemble, qui existe au-delà du temps, qui connaît tous les futurs potentiels, tous les passés potentiels, tous les présents potentiels et qui ne demande qu'à collaborer avec l'humain, main dans la main, pour que vous puissiez accomplir la volonté de Dieu ou votre volonté. Lorsqu'un être s'ouvre à cette réalité de lui-même, il est alors si intensément nourri par cette énergie que sa vision s'élargit. Et lorsqu'il a l'impression qu'il s'abandonne à la conscience élargie, tranquillement sa propre conscience s'élargit. Parce qu'alors il se souvient qu'il est lui aussi cette conscience. Et un pas à la fois, l'humain et le divin se rencontrent au niveau du cœur et ses énergies fusionnent. Parce que même si l'être qui a la vue d'ensemble, donne l'impression d'être plus grand, lorsque l'être humain comprend qu'il s'agit simplement de positionnement et que l'être accepte que sa dimension humaine, ses blessures, ses mémoires, ses impatiences, tout cela ne sont pas associés à son infériorité, à son état de soumission, mais simplement à un état d'être qui continuellement l'amène à cohabiter avec cette dualité et recherche la lumière. Lorsqu'un être est impatient, il n'a pas à s'empêcher d'être impatient, il n'a pas non plus à s'y fondre totalement, à se dire « voilà, c'est ainsi, je suis impatient, je ne peux rien y faire, c'est ma vie ». Cela n'a aucun sens. Pas plus qu'un être qui renie son impatience et qui se force à être patient pour camoufler son impatience qu'il associe à son infériorité. Ces deux mouvements sont tout aussi incohérents. Ce qui amène l'être à évoluer, c'est l'être qui est conscient de son impatience, qu'il l'ait exprimée ou non, dès que sa conscience l'identifie et que l'amour en lui s'y ouvre, voilà que l'impatience, un pas à la fois, est imbibée d'amour et l'être comprend que l'impatience lui permet de reconnaître l'être patient en lui et que lorsque l'impatience se présente, ce qui l'irrite devient alors son enseignant. Parce que ce qui l'irrite, ce qui le rend impatient, témoigne pour cet être d'un aspect de lui qui cherche sa lumière. C'est ce que vous nommez la loi du miroir. Donc l'être observe ce qui l'irrite et lorsqu'il est suffisamment conscient, il peut s'approprier cela. Donc il n'y a rien ici qui suggère une forme de résistance ou une forme de déni. L'être qui est impatient peut changer ou non son comportement s'il est suffisamment vigilant et attentif, mais au-delà de cela, il peut reconnaître que ce qui l'irrite est un enseignant pour lui et alors utiliser cette irritation comme moyen d'évolution pour mieux se découvrir. Mais cela n'a rien à voir avec un état d'infériorité. Cela a tout à voir avec le concept de l'incarnation qui implique un état d'oubli. Si vous oubliez que vous êtes uni à l'univers, il est naturel que vous viviez une sensation de séparation. Ensuite, allez-vous associer cette sensation à une punition ou simplement à un état choisi pour stimuler l'évolution? Et c'est cette deuxième option qui correspond à la vérité, à tout le moins à la vérité de ce qui est perçu au niveau universel. Et c'est aussi une vérité qui pousse à l'intérieur. Donc l'état d'être humain et l'état d'infériorité ou de soumission doivent être transformés, dissociés, pour que les êtres puissent vraiment assumer leur dimension divine tout en permettant à l'être humain qu'ils sont de suivre son chemin vers la lumière de son être, un pas à la fois, accompagné par la conscience élargie qui propose des avenues plus stimulantes. Et l'être, lorsqu'il accepte de proclamer sa souveraineté, donc l'être accepte de reconnaître qu'il est un être divin, voilà qu'alors il peut donner la main à sa conscience élargie et ensemble ce tandem qui devient trinité avec la dimension incarnée peut tout accomplir. Et voilà que la volonté de Dieu prend forme. Et l'être humain devient divin, l'être divin devient humain, Dieu prend chair, la chair devient Dieu, et l'univers, à travers l'incarnation, peut vraiment ancrer le paradis terrestre, car vous êtes les portes d'entrée de ce paradis. Le paradis n'est pas un manteau qui se dépose sur terre, c'est une énergie qui se déploie des êtres d'amour que vous êtes. Ce sont les êtres humains qui sont les portes d'entrée du paradis. Il n'y a rien à l'extérieur de vous qui créera un paradis et qui vous appellera lorsque le paradis sera prêt. Assoyez-vous et attendez, le paradis s'en vient. Tout cela ne fait aucun sens au niveau évolutif. Vous êtes les porteurs, les créateurs de ce paradis. Si vous, en tant qu'être conscient, ne reconnaissez pas cette alliance universelle, qui le fera? Qui le fera, chers amis? Vous êtes conviés à reconnaître votre alliance universelle tout en renonçant à tout thème de soumission et d'infériorité. Comprenez bien la nuance, chers amis. Comprenez bien la nuance. Dans vos sociétés actuelles, en cette terre du Québec, vous pouvez déjà constater que la génération émergente comprend cellulairement l'incohérence de la soumission. Tous les êtres qui sont parents savent que leurs enfants ne répondent plus à l'autorité comme ils ont eux-mêmes répondu. N'est-ce pas, chers amis?
Oui.
Est-ce un signe que vous avez relâché l'autorité et que les enfants sont devenus hors de contrôle? Certains le pensent. Ou est-ce plutôt un signe que vous avez appelé à travers vos entrailles des êtres qui ont préservé un souvenir universel en eux et que lorsqu'ils arrivent sur Terre, même s'ils ne le comprennent pas intellectuellement, tout en eux les pousse à refuser l'autorité extérieure parce qu'ils savent qu'ils sont souverains. Et ce qu'il y a de très particulier, c'est qu'en ce moment, les êtres souverains, nommons-les ainsi, des souverains en apprentissage, en devenir, en formation, les apprentis souverains ont un impact beaucoup plus grand que tous les êtres soumis adultes ont envisagé, estimé. Tous les êtres se diront que la jeunesse émergente est beaucoup plus tenace, et non seulement elle est plus tenace, mais leurs impacts sont importants. Ils ne le comprennent pas dans les mots que nous vous prononçons, mais en eux, de l'intérieur, s'est activé en cette année un mouvement de proclamation qui les pousse à refuser toute forme d'invalidation de leur souveraineté. Et vous verrez ce mouvement s'amplifier. Non pas le mouvement actuel qui est associé au conflit, qui est associé aux études. Le mouvement de proclamation de souveraineté partout dans le monde est en croissance et ne fera que s'amplifier. Et cela est le bienvenu sur votre planète. Ne craignez pas ces débordements potentiels, car même s'il y a des débordements potentiels, cette lumière enveloppante est beaucoup plus consciente que vous ne pouvez l'imaginer. Et elle sait qu'à travers un éclatement naît la vie. Vous dites que le chaos a précédé la naissance du Big Bang. Peu importe les croyances, les associations scientifiques, cette notion est comprise que du chaos naît la vie. Et il n'y a pas nécessité qu'il y ait chaos. Comprenez simplement que le chaos est associé à une résistance, à un mouvement naturel. Ce mouvement, c'est la souveraineté. Et la génération qui suit, ceux des enfants, adolescents, va s'appuyer sur le mouvement des prédécesseurs pour ancrer de façon irréversible un recalibrage du pouvoir. Parce que eux, non seulement ils résisteront à ce qui est nommé pouvoir envahissant extérieur, mais comprendront avec l'esprit l'incohérence de cela. Parce qu'ils ont déjà vécu suffisamment d'expériences qui les amènent à comprendre qu'ils sont unis, qu'ils sont un, pour comprendre intellectuellement que toute notion de séparation, de concurrence, d'enjeu de pouvoir, que le meilleur gagne, que le plus puissant domine, tout cela, ils comprennent à la fois cellulairement et intellectuellement le non-sens. Et ils sauront le proclamer d'une façon, d'une seule voix, pour que tous l'entendent et sachent qu'ils lèguent cette planète à une génération qui ne corrobore pas les dynamiques de pouvoir précédentes. Sans les rejeter, ils comprennent cellulairement qu'ils sont venus pour proposer des alternatives et ils le feront, chers amis. Et ils le feront. Et bénissez cela. Bénissez cela. Ne le craignez pas. Bénissez cela. Aimez-les. Appréciez. Reconnaissez-les. Reconnaissez que leur refus d'autorité, même s'il est complexe à gérer à l'échelle familiale, scolaire, témoignent de la vie qui pousse en eux et qui les amène à reconnaître qu'ils sont d'alliance universelle et qu'ils demeurent connectés à la partie d'eux qui a le grand plan. Ils n'ont plus besoin de questionner la partie d'eux qui a le grand plan. Ils deviennent cette partie d'eux. Parce qu'ils sont nourris à reconnaître leur lumière, à reconnaître la vérité en eux. Certes, ils cohabitent aussi avec d'autres êtres qui n'ont pas ce parcours, mais vous verrez que de ce groupe naîtra une forme d'union qui poussera même les êtres plus... nous dirions plus, permettez-nous d'emprunter le terme enlisé, plus pris dans les notions de dualité, de compétition, de concurrence, et vous verrez même ces êtres être emportés par une vague vers l'avant, nous parlons d'une vague de changement, être poussés vers une vague de changement qui stimulera aussi leur évolution et créera même une accélération de conscience en eux. Et à un moment, ils accepteront eux aussi de laisser aller l'ancien, même s'ils y ont été plus attachés, nous dirions. La génération qui suit est une génération qui se réveille, qui se réveillera et qui proposera des modèles viables, fonctionnel, cohérent, qui serviront la vie et l'union entre les êtres. Ces modèles, vous aurez compris, seront invalidés a priori par les êtres qui prétendent tout connaître, parce qu'ils utilisent le passé pour recréer le futur. Ils diront qu'ils ne veulent pas faire les erreurs du passé, mais en vérité, ce qu'ils font, c'est qu'ils corroborent une énergie du passé, qu'ils figent en disant, voilà, nous avons la preuve que ces modèles sont dysfonctionnels et que ce modèle est fonctionnel. Ils le projettent vers le futur, mais ils ne remettent jamais en question le concept même de séparation, de concurrence, qui est à la base de tous les déséquilibres sociaux. Tant et aussi longtemps que les êtres maintiennent en eux l'envie de séparation, de domination, de supériorité, réussite sociale, avoir plus d'abondance, plus d'argent, être plus intelligent, avoir plus de ressources que quelqu'un d'autre, cette notion d'avoir plus que quelqu'un d'autre sur votre planète maintient les nouveaux modèles dans la même énergie. Donc lorsque des êtres qui continuent de souhaiter avoir plus que quelqu'un d'autre, qu'ils aient réussi ou non, cela n'a aucune importance. Qu'un être soit dans la pauvreté, qu'il souhaite en avoir plus que quelqu'un d'autre, ou réussir un jour, dans le concept qu'il réussira à se sortir de la masse, et qu'un autre ait réussi à se sortir de la masse, peu importe la dynamique, les êtres sont dans la même dynamique. C'est-à-dire qu'ils acceptent qu'il y ait des êtres inférieurs, supérieurs, et que cela est ainsi. C'est une planète ainsi. Il doit y avoir des pauvres pour qu'il y ait des riches. Tout ce concept, s'il n'est pas remis en question, les idées qui émergeront de ces êtres ne feront que poursuivre l'ancien. C'est pour cela que nous disons que les êtres qui créeront les nouvelles solutions portent l'ingrédient de base, c'est-à-dire la sensation d'union et l'envie que tous soient inclus dans la solution et non uniquement quelques élus favorisés par un système qui est complètement désuet, mais qui, aux yeux de certains, aurait supposément fait ses preuves. Mais quelles preuves ? Cela est aussi discutable. Chers amis, ce propos très vaste et à la fois très concret, vous l'aurez noté, peut éveiller aussi un enthousiasme et laisser en vous les idées, car si nous vous adressons ce sujet, ce n'est pas pour attendre que la génération après vous puisse enfin prendre le relais. Vous aurez compris, si vous êtes présent, si vous entendez ces mots, si vous êtes dans votre dynamique de participer à une élévation de conscience, nécessairement, vous êtes impliqué dans ce scénario. Le propos n'est pas d'attendre que les autres fassent, mais de vous souvenir que la volonté de Dieu est associée à vous. Mais pour vous, plus vous assumerez l'égalité entre vous et l'univers, entre vous et Dieu, plus il vous sera facile de donner la main et de vous en inspirer, chers amis. Y a-t-il un questionnement dans ce lieu qui pourrait bénéficier cette audience maintenant? Quels sont les questionnements?
On va prendre une question maximum parce qu'on a dépassé notre temps. Là. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce qui vient d'être dit? Je pense qu'on va conclure parce que c'était très complet. Puis je vais revenir sur certains concepts avec vous après.
Ce qu'il y a de magique dans cette audience, dans ce propos et dans ce rendez-vous, c'est qu'il leur a permis à des êtres d'abord de sentir une fréquence de réunification, de fraternité. Nous avons dit en tout début de rencontre la notion de fréquence, de réunification, sentir un état d'union. Tout cela à travers le parcours énoncé en ce jour, vous amène d'abord à reconnaître cet état d'être intérieur, que vous l'ayez voulu ou non, ce propos a réveillé en vous ce qu'une partie de vous avait déjà accepté en vous présentant ici, c'est-à-dire permettre à la dimension de vous égale à vous, mais qui a préservé un état de conscience plus large, puisse vous tendre la main et venir vers vous. L'univers ne peut rien sans l'être humain. Et vous nous direz, mais l'être humain ne peut rien sans l'univers, alors tout est parfait. Il y a invitation à tendre la main. Mais tant et aussi longtemps que l'état d'infériorité, la soumission, l'invalidité de son pouvoir est au rendez-vous, la main tendue ne trouve pas preneur parce que l'équation est inversée. Et nous vous convions à l'ultime rendez-vous, celui de proclamer votre essence divine tout en vous abandonnant à la conscience élargie de vous qui possède la vue d'ensemble et qui ne demande qu'à vous la présenter. Et vous êtes un magnifique rendez-vous en ce jour, chers amis, car vous serez guidés, un pas à la fois, à intégrer ce tandem qui deviendra trinité avec l'incarnation. Et voilà que la trinité est enfin réunie sur terre. Nous vous saluons, chers amis. Nous sommes profondément ravis d'avoir pu nous entretenir avec vous. Salutations à vous, chers êtres. Nous allons maintenant quitter.
Merci beaucoup.
Merci. Merci. Merci.